Chapitre 2. 17 mai. Voilà ce qui s'appelle encourager les gens. Ma plume se sent plus alerte et mes idées s'enchevêtrent si bien que je ne sais comment débrouiller les chevaux. Cependant, je tiens un bout en attendant mieux et je te mets la main en t'affirmant, foi d'honnête solitaire, que l'étonnement de ton mari est d'une impertinence rare. S'imaginait-il, ce voyageur enragé, qu'un prieuré et les ombres de pieux moines devaient me conduire tout droit à l'idiotisme, au désespoir? Mon Dieu, oui, les jours coulent uniformes comme les eaux d'un paisible courant, avec le même bruit pour me bercer, et ma place dans le monde est bien petite. Mais si exiguë qu'elle soit, je me sens si pleine de vie que, parfois, je crois tenir le monde entier dans mes bras. J'attendais ta lettre avec toute l'anxiété d'un navigateur, auquel des ravitaillements sont nécessaires pour continuer sa marche, et, les ravitaillements n'arrivant pas, je montais chaque matin dans le belvédère pour guetter, avec une grande lunette d'approche, le personnage émouvant qu'on appelle un facteur. Ce belvédère, planté au-dessus du cœur de l'église, en remplacement du clocher qui menaçait de s'abattre sur la tête des habitants, est une chambre carrée percée de trois ouvertures, lesquelles lui donnent l'air avenant d'une lourde lanterne. La porte vitrée de ma lanterne ouvre sur une petite plateforme d'où je domine le pays. Il m'arrive quelquefois, mais assez rarement, de venir lire, penser ou même écrire dans ce refuge haut perché. Pour parer à cette éventualité, j'y ai fait porter une table et un vieux fauteuil en paille au fond duquel je tombais régulièrement chaque fois que je m'asseyais. Alors, avec une ingéniosité de pauvre gueux que ton luxe ne te donnera jamais, j'ai maintenu les barreaux avec du cordon de tirage et je reste en bonne intelligence avec mon fauteuil jusqu'au moment où, le cordon cédant, je suis obligé de recommencer mon opération. Ainsi installé, je vis comme un bernardin dans sa coquille. Les parois n'en sont pas luxueuses. Quand j'étais enfant, j'ai fait plus d'une fois des tentatives malheureuses pour les tapisser avec le reste des lits de papier qui tombent en lambeaux dans une partie des chambres. Mais je suis toujours resté au milieu de mon travail. De sorte que mon œil s'arrête tantôt sur des petits personnages bleus qui dansent dans une prairie violette, tantôt, lorsque je me tourne d'un autre côté, sur des roses groseilles entourées d'un dessin jaune. J'abandonne ces horreurs pour regarder droit devant moi par la porte ouverte, en plongeant sur la cime de vieux acacias si chargés de fleurs que c'est merveille de voir comment des branches aussi menues peuvent soutenir des grappes aussi lourdes. T'es-tu jamais avisé de regarder au-dessous de toi la cime fleurie d'un acacia, d'en admirer la richesse et la vieille vie toujours jeune, puis de quitter ce blanc éclatant pour contempler à l'horizon je ne sais quel rêve fugace derrière un brouillard transparent, puis, le brouillard se dissipant, de voir. Ma chère, nous parlerons de cela plus tard, mais je crains en vérité que tu ne connaisses que la prose de la vie. La prose, je maintiens ce mot. Il prouvera à ton mari que j'aime la loi du talion. J'ai donné la clé des champs à ma plume et la voilà qui broutille à tort et à travers, alors que l'heure s'avance et que je veux te conter les choses graves qui se passent ici. J'étais assise ce matin sur un banc du bois. Ce banc est une simple planche posée sans l'ombre de façon sur deux pierres. La planche est devenue noire, elle s'effrite si on la gratte un peu, et une petite mousse cramponnante la couvre en partie. Pendant que je rêvais vaguement devant ce lichen qui m'inspirait, je ne sais pourquoi, une quantité de réflexion, j'ai vu s'avancer Madame de Ligne, sa robe sans mode au vent et son chapeau de jardin à la main. Son air grave me fit pressentir que nous étions en marche accélérée vers la philosophie. Le début fut en effet effrayant de profondeur. « Mon enfant, me dit-elle, le cœur est un clavier. » Instinctivement, je portai vivement la main à la place de cet organe pour voir un peu s'il était vrai, puis, souriant de ma naïveté, je répondis d'une voix faible « Un clavier, madame ?»« Un clavier, Claude, répondit-elle du ton ferme d'un penseur que des méditations profondes ont transporté au sein de la vérité. » Un clavier dont les notes vibrent successivement les unes après les autres, à moins, ajouta-t-elle, que plusieurs ne parlent à la fois. Cette image saisissante m'inspira un respect extrême, et, selon l'usage, d'autant plus grand que je n'y compris rien. Mais ce que c'est que d'avoir l'esprit obtus? Il paraît que c'était parfaitement clair, car ma cousine reprit « Tu as deviné, ma fille, qu'il s'agit d'un mariage. » J'ouvris de grands yeux, car à moins que le ciel ou des amis ne s'en mêlent, je ne croyais pas qu'il y eût l'ombre d'un mari sur ma route, c'est-à-dire... Il viendra demain, reprit Madame de Ligne. Tu l'as vu une fois, mais je ne veux pas te dire son nom aujourd'hui. Il est fort bien, il a 15 000 francs de rente, plus sa clientèle, car il est médecin. Ma cousine avait autrefois déclaré péremptoirement que les 30 000 francs de rente, rêvés en vain pour elle, étaient son dernier mot pour moi. Elle établissait ce fait que, possédant dans ma parenté un financier non marié immensément riche, lequel m'avait servi de correspondant pendant mon séjour au couvent et m'envoyait généreusement chaque année un sac de chocolat et d'excellents marrons glacés, je deviendrais une héritière remarquable et que mes prétentions devaient être à l'unisson de mes espérances. Mais cet homme avisé ne songe nullement à quitter la vie, et en réfléchissant que je pourrais bien avoir 40 printemps quand mon héritage présumé versera sa rosée bienfaisante sur ma tête, ma cousine s'est rabattue sur 15 000 francs. Et voilà que cette aubaine magnifique tombait sur moi comme la manne dans le désert. Si les Juifs l'ont mangée avec le dégoût que je mettais à la contempler, je l'ai plaint. Du bout du pied, je poussai des feuilles mortes d'un air piteux, tout en remarquant la satisfaction répandue sur le grave visage de ma cousine. « C'est surprenant » m'écriai-je. Et, répondant à son air étonné, je continuai avec chaleur. « Oui, surprenant qu'un homme dans une aussi bonne situation songe à moi qui n'ai rien. Ce doit être le fils d'un assassin ou quelque chose d'aussi bien. » « La question est trop sérieuse pour plaisanter, » répondit Madame de Ligne d'un air mécontent. « Il est d'une famille honorable, quoique moins bien posée que la tienne, et il a 20 ans de plus que toi. Voilà les deux côtés noirs de la situation. » Je comprenais, c'était le libre-échange appliqué au mariage. « L'expérience te manque pour juger sagement l'avenir, » reprit ma cousine. Ensuite, je sais qu'à ton âge, les notes du clavier vibrent sans cesse sur un point. « Je jure par le Styx, » m'écriai-je véhémentement, « que mon clavier est muet comme... » J'allais dire « comme la tombe », mais je m'arrêtai tout à coup et sentis qu'une vive rougeur se répandait sur mon visage. Fort heureusement que Madame de Ligne, préoccupée, ne vit rien. Elle cherchait, je crois, quelques sentences foudroyantes quand je repris, avec un peu d'hésitation, car je me sentais sur un terrain horriblement glissant. « Je ne tiens pas à l'argent, ma cousine. J'ai vécu 20 ans avec rien, et, m'en trouvant admirablement, je ne demande qu'à continuer. » Elle me regarda avec stupeur. « Tu aurais 10 ans que tu ne raisonnerais pas autrement. L'argent fait les 3/4 du bonheur. J'en sais quelque chose pour en avoir été privée toute ma vie. Eh bien, si je ne me mariais pas, » dis-je dans une illumination subite. Mais Madame de Ligne, pour toute réponse, se contenta de hausser les épaules, ce qui rabattit ma découverte et mon illumination subite au rang d'une affreuse bêtise. Elle refusa encore, je ne sais trop pourquoi, de me dire le nom de ce prétendant. Probablement que j'ai émis une opinion défavorable sur son compte lorsque je l'ai vu, et qu'elle ne veut pas que mon imagination s'emporte sur cette première impression avant d'en avoir une seconde. Alors, je suis allée trouver grand-mère, avec l'espoir de vaincre facilement sa discrétion. Grand-mère surveillait la cuisson de confiture en jouant de la guitare et en lisant les aventures de Mathilde et de Macheladel. Elle s'était installée dans l'arrière-cuisine, une pièce humide dont la voûte aux 4 nervures soutient la terrasse pendant que le four prend la moitié de la place. Grand-mère, dont la main potelée et à peine ridée, malgré ses 75 ans, se promenait avec agilité sur les cordes de son instrument, s'interrompit lorsque je franchis la petite porte cintrée de ce singulier sanctuaire. « Grand-mère, je suis demandée en mariage. Par qui ?» En général, ces questions à brûle-pourpoint me réussissent. Mais grand-mère me répondit d'un air mystérieux. Tu le sauras demain. J'ai promis à Laure de ne pas te le dire. Je voudrais le savoir tout de suite, dis-je. Et puis, ma chère grand-mère, je me moque, je vous assure, d'avoir ou de n'avoir pas 15 000 francs de rente. Et ensuite, devenir la femme d'un médecin, pouah! Un homme qui vit au milieu des maladies, des morts ou des mourants. D'ailleurs, je suis sûre qu'il... Mais un bruit inquiétant, du côté des confitures, interrompit mon discours. Mes confitures brûlent! S'écria grand-mère en posant sa guitare sur une chaise et en jetant par terre Malek Adèle. Mon Dieu, est-il possible? Elles s'en vont dans le feu. Marie, René, Laure, Mina, mais arrivez donc! Levez la bassine, dépêchez-vous! Dans sa détresse, grand-mère appelait à son aide jusqu'à sa chatte favorite. Je me précipitai, me brûlai les doigts et me noircis les mains dans l'intérêt de ma cause, ainsi qu'il arrive souvent dans le dévouement des hommes. Mais l'ampoule que je me suis faite à la main droite ne m'a servi de rien, ma chère amie. Grand-mère, contre son habitude, n'a commis aucune indiscrétion et j'en suis réduite aux conjectures. Pendant le dîner, je me suis de rechef élancée sur mon coursier préféré. J'ai parlé avec conviction de la vie de campagne simple et rustique, des mérites moraux qui découlaient de la sagesse de nos aïeux, lesquels, ces bonnes gens, se contentaient de rideaux de mousseline et de vulgaires carrelages. Mais ma cousine m'a interrompue pour me dire « Regarde le tableau généalogique qui est dans la bibliothèque et tu verras s'ils étaient simples. » Il est de fait que chaque note biographique se termine ainsi. Il eut de grandes relations et se ruina. La ruine a été leur position sociale et nous avons conservé la tradition. Je tournai bride et pris un autre cheval, mais sans plus de succès. Il était si piteux que mon coursier butait à chaque pas et que nous avons fini par rouler dans un fossé où nous sommes restés. Adieu, Majesté! Demain, le facteur emportera ses pages et le soir, je t'en griffonnerai de nouvelles pour te conter comment cette manne miraculeuse, qui s'appelle un médecin, pourvue d'une clientèle et de 15 000 francs de rente, est remontée au ciel d'où elle était tombée.